J'étais petit, on disait que les innovations arrivaient toujours des États-Unis. Ça mettait parfois plusieurs années, mais force était toujours de constater que les Américains étaient toujours en avance d'une innovation par rapport à la France ou à l'Europe. Et puis sont arrivées les startups de la Silicon Valley avec suffisamment de créativité pour concevoir de nouveaux joujoux numériques et nous faire saliver par des salves d'innovations toujours plus attractives les unes que les autres. Et puis, un beau jour, on s'est rendu compte que la créativité venait aussi d'Asie. Les férus d'innovation ont donc fait cap à l'Est pour saisir le vent des nouvelles technos et des nouveaux usages. Et puis, un beau jour, on se rendra compte que les innovations les plus intéressantes proviendront peut-être du Sud, là où l'innovation jugade, tu sais, l'innovation ingénieuse sans grands moyens, est probablement la plus belle, car elle demande beaucoup, beaucoup de créativité. Quand on n'a pas d'argent, il faut avoir encore plus d'idées, non ? Mais avant de faire le tour de la Terre, quelles sont les nouvelles tendances dans la Silicon Valley ? Que nous préparent les startups de San Francisco, Palo Alto, Mountain View, Cupertino, Santa Clara ou San José ? Pour en savoir plus sur ce qui se prépare, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast Le Digital pour tous, Guillaume Dumortier, fondateur et CEO de The Growth Concierge, l'agence de marketing digital située dans la Silicon Valley qui aide les entreprises à accélérer leur croissance et améliorer leur marketing. Bonjour Guillaume.
Bonjour PPC.
Ça me fait bien plaisir de te voir avec cette distance qui est entre nous au niveau des kilomètres, mais cette présence, parce que je sais que tu es un fou d'innovation. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Quelles sont les 3-4 grandes tendances que tu peux observer de l'autre côté justement ?
Bon, je pense qu'on ne va pas pouvoir éviter l'intelligence artificielle générative et tout le foin qui est en train d'être fait là, depuis les dernières semaines. Donc il y a déjà ça et c'est assez dense. Après, contexte Silicon Valley qui n'est pas si reluisant que ça, parce qu'elle est quand même sous surveillance, cette Silicon Valley, et on va parler antitrust. Après, on va quand même un peu se rassurer sur le côté consumer, donc consommateur, avec quand même des tendances de fond sur les applis qui vont marcher et aussi les catégories qui vont arriver, en tout cas qu'on va nous représenter. Et puis un topo sur l'entreprise, parce qu'il ne faut pas oublier l'entreprise. Alors ça va être plutôt sous le capot. Comment est-ce qu'on manipule les API, les notions de digital twin, et puis qu'est-ce qu'on fait dans les vieux bocaux qu'on appelle les serveurs in situ. Donc on va essayer de parler de tout ça, si ça te va.
Ah bah c'est magique, on va prendre les questions aussi des participants qui sont en direct avec nous. Alors tu nous as dit, bon, on ne peut pas échapper à l'intelligence artificielle, c'est vrai que c'est l'actu. Alors, je te propose de nous donner un tout petit peu de fraîcheur là, parce qu'à l'heure où on enregistre cet épisode, on est le 7 février, il se passe plein de choses en ce moment dans la vallée.
Bah, ChatGPT, si vous n'avez pas entendu parler, même sur les médias mainstream de ce fameux ChatGPT, vous avez vraiment dormi dans une caverne. Il est temps de sortir de l'hibernation. Mais donc ChatGPT, c'est cet outil un peu magique sous forme d'un chatbot où on lui demande de nous faire à peu près tout ce qu'on veut, des formules mathématiques, des essais et que sais-je. Et du coup, tout de suite, ça a indiqué au QG de Google alerte rouge. Pourquoi ? Parce que les chiffres qui sont tombés, c'est que ChatGPT a atteint 1 million d'utilisateurs actifs journaliers en 5 jours, et les 10 millions étaient passés au bout de 40 jours. Donc ça en fait le produit technologique le plus rapidement adopté de tous les temps. Technologique. Et du coup, on était très en attente de la réponse de Google dont on a su qu'il s'agitait fortement à l'intérieur. Il y a même Sergey Brin qui a resoumis ses premières lignes de code depuis plusieurs années, justement, dans ce projet. Donc, on le sait aujourd'hui, ça a été annoncé. Alors, vous avez découvert ce matin dans les médias tech les plus avancés. Et donc, ça s'appelle BARD, B-A-R-D, et ça a été révélé aujourd'hui. Donc, c'est l'initiative de Google qui était connu sous le nom de code Sparrow, donc qui était la réponse attendue de Google à ChatGPT. Et donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un chatbot. C'est un chatbot. Tout ce qu'il y a de plus, j'ai envie de dire classique dans sa présentation d'interface. Hein, donc, une petite fenêtre dans laquelle on tape quelque chose. À la différence que Google se positionne vraiment sur l'amas de connaissances qu'il a collecté depuis toutes ces années, et que donc du coup, il se positionne à l'intersection de la connaissance et donc de la facilité de recherche.
Ça sera à suivre. Tu nous parlais justement de ces géants de la tech, et il y a quand même un peu d'une tendance antitrust, c'est ça?
Ouais, alors là, on est dans le hype de la Silicon Valley, donc c'est vraiment cette courbe où on fait monter des innovations technologiques très en haut pour les voir s'écrouler et puis revenir à plateau. Mais en fait, la justice fédérale américaine, elle garde quand même les gros yeux sur les gros acteurs. Demain, c'est le discours de l'Union de Joe Biden, donc c'est le discours annuel qui donne un peu les directions. Et on sait que demain, Joe Biden va taper très fort contre la tech, et de manière, c'est un des terrains d'entente en fait du bipartisme américain entre républicains et démocrates. Républicains parce que tout ce qu'ils gagnent en pouvoir, ça menace leurs intérêts. Et les républicains se trouvent moins bien traités dans la censure de leurs propos sur les réseaux sociaux, alors que les démocrates vont plutôt être sur la préservation de la privacy, donc des données personnelles, mais aussi la protection des enfants, avec toutes les études récentes qui sont sorties sur la santé mentale et sur le design des applications qui ont créé vraiment, et ça a été prouvé, des gros dégâts dans la santé mentale des jeunes adolescents. Mais pas plus tard que vendredi, Google se fait rattraper par la patrouille sur son business d'advertising, et il lui a reproché de racheter les technologies concurrentes et puis de les fermer, ou d'avoir telle position dominante que en fait les publishers n'ont pas d'autre choix que d'utiliser les technologies Google. Donc il y a celui-là, donc Google qui est très regardé. Il y a Blizzard, Microsoft, donc Blizzard, Activision, qui sont des studios de jeux vidéo, qui, pareil, là, on est sur un montant de la transaction près de 70 milliards de dollars. Et puis, des trucs un peu plus légers, il n'y a pas besoin d'être un géant de la tech, on peut juste s'appeler Ticketmaster, donc un outil de billetterie, qui, en fait, à la fin de l'année 2022, Taylor Swift a mis en vente ses tickets, et ça a provoqué un raz-de-marée et un mécontentement jamais vu, puisque la plupart des fans de Taylor Swift n'avaient pas pu acheter leurs billets à cause de bots et plein de raisons. Et du coup, aujourd'hui, les exécutifs de Ticketmaster se retrouvent à devoir s'expliquer devant le Sénat et du coup, potentiellement, engager une action antitrust sur Live Nation, donc le propriétaire, qui possède quand même 2/3 de toutes les enceintes d'entertainment, donc sport compris, hein, on va dire que c'est les stades de foot, de baseball. Donc, une Silicon Valley qui génère beaucoup de choses dans l'intelligence artificielle, qui change son fusil d'épaule après l'effondrement des cryptos et un peu le Web3 en moins bonne odeur de santé que ce qu'il a été auparavant. Attention à la Silicon Valley.
Justement, tu nous parlais du Web3 et tu me parles de cette AI qui a tout masqué. On en parle de partout, on a ça en France, dans tous les magazines, toutes les radios parlent de ChatGPT, puis on va parler de Bard, et puis on va parler aussi peut-être de Bing aussi. Justement, le Web3, c'est fini?
Non. Aujourd'hui, il y a un joli acronyme qui fait écho à la devise des États-Unis qui est « In God We Trust ». Et le Web3, c'est « In us we trust ». Donc en fait, c'est quoi? C'est qu'il y a le mouvement qui consiste à dire que les gens, les créateurs surtout, hein, puisque c'est de dont on parle, se réapproprient et leur contenu, et leur audience, et leurs espaces, et de tout pouvoir opérer, organiser comme ils l'entendent, et de pouvoir le porter d'un environnement à un autre sans que ça pose de soucis de demande de données. Ça frémit, mais il ne faut pas se leurrer, l'effondrement des cryptos en 2022 et la quantité de scams et les histoires des pertes de valeur, en fait, le get rich scheme, finalement, tout le monde s'est passé de mode. Mais là où c'est rassurant, c'est que j'en parlais au début, c'est que le hype cycle, en fait, le hype cycle, c'est une courbe que le cabinet Gartner publie tous les ans vers l'été, qui montre en fait l'évolution selon cinq étapes. Donc la première étape, c'est le trigger technologique, donc quand l'innovation est détectée ou en test. Après, il y a la pente ascendante astronomique qui monte jusqu'à un pic d'expectations enflammées ou inflated. Alors là, c'est, excusez mes anglicismes, j'ai pas le Google Translate encore greffé.
Que fait Elon
Musk? Et puis après, ouais, voilà. Mais juste après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette espèce de pente, cette dégringolade de la désillusion avant d'avoir un point d'inflexion et de revenir à un plateau marché. Bah là, le Web 3, je pense qu'il est en fin de grosse descente. On a un peu éliminé les canards boiteux. Enfin, je veux dire, on est quand même à plus 3 mois de FTX. Donc, c'est quand même encore frais. Mais les beaux jours vont revenir. Et toi-même, tu sais, c'est plus la capacité à montrer ce qu'on peut en faire, ouais, plus que la technologie.
C'est un sujet d'usage. C'est un sujet d'usage et de simplicité aussi, je pense. C'est Charles qui te pose la question. Il dit, la blockchain, ça reste un sujet qui est pas assez sexy pour la Silicon Valley. Et je rajoute, tu penses que l'AI et le Web 3, ça va ne faire qu'un à la fin ou pas?
Non, parce que c'était quand même. Si on devait faire l'analogie d'une recette, ce sont deux ingrédients différents. C'est peut-être des ingrédients d'une même catégorie, c'est peut-être des épices, mais ils sont quand même par nature complètement différents. Et j'aime bien la question sur la blockchain parce qu'en fait, ça révèle finalement que le concept, il est tellement galvaudé, comme beaucoup d'autres. Hein, mais en fait, la blockchain, ce n'est qu'un moyen, c'est l'infrastructure, c'est la plomberie. Donc en fait, dire que la blockchain, ce n'est pas un sujet pour la Silicon Valley, c'est faux. C'est juste que la Silicon Valley ne met pas le mot blockchain sur le devant de son pitch ou insiste sur c'est ça qui va transformer. C'est l'enabler, c'est ce qui va faciliter la construction du projet, la faisabilité du projet. Si on dit qu'on veut quelque chose de transparent, de décentralisé, on va utiliser la blockchain. De la même manière que si tu veux faire un site e-commerce, bon, aujourd'hui, on va dire Shopify comme un nom commun, mais ce sont des plateformes de e-commerce comme on va appeler des gestionnaires de contenu dynamique pour le web, des CMS, des Content Management System. Donc la blockchain, c'est un pilier, c'est une commodité. Donc c'est pas un sujet qui est délaissé, mais la Silicon Valley va là où va le vent. Hein. Donc aujourd'hui, la blockchain, c'était l'année dernière. Aujourd'hui, tout le monde a changé son fusil d'épaule vers l'intelligence artificielle. D'ailleurs, il y a un chiffre qui est fou sur 2022. En 2022, il y a eu 78 deals dans l'intelligence artificielle pour un montant total de 1,4 milliard d'investissement. Ça représente 5 ans d'investissement dans l'IA sur les 5 années précédentes. C'est-à-dire qu'en un an, il y a eu autant d'argent et de deals que ce qu'il y a eu sur les 5 dernières années.
Impressionnant. Impressionnant. Est-ce que tu vois une autre tendance ou quelques autres tendances poindre leur nez?
Alors, il y en a une, moi, qui me titille, c'est Apple, et qui va lancer ses glaces de réalité mixte cette année. Alors, on ne sait pas trop si ça va être... On pense que ça va être annoncé au mois de juin et que ce sera disponible au retail pour un prix exorbitant vers Q3, Q4, donc à la septembre, plutôt pour la fin de l'année. Et donc, la question, c'est de se dire, est-ce que... Apple va encore transformer en or une catégorie qui existait avant lui, qui n'était pas sexy, mais est-ce que l'Apple Touch va finalement donner à la réalité mixte ses premiers tours de roue mainstream? Donc ça, je me pose beaucoup la question. Mais surtout, je pense que c'est au niveau du consommateur. On parlait de l'IA, donc de très, on va dire, processé, on va dire même de très feignant, quoi, parce qu'on réfléchit plus, on laisse une machine faire pour nous. Et du coup, c'est intéressant de voir que le contre-pied au niveau des applis consumer, donc pour les consommateurs, c'est un phénomène très générationnel, hein, qui est plutôt porté par les générations Z et en dessous, qui consiste à dire qu'ils ont besoin de relations vraies. En fait, ils n'ont pas besoin d'être connectés à tout le monde, ils ont besoin d'être connectés à leurs vrais amis. Et c'est pour ça qu'une application comme BeReal, il faut se rappeler qu'elle a été élue meilleure appli de l'année 2022 par Apple. Il y en a d'autres, il y a Locket Widget et Feu Zenly, hein, qui s'est fait éteindre la semaine dernière, mais qu'est-ce qu'on a appris dans la foulée? C'est que un de ses couvertures, je ne sais plus lequel des deux, relance Amo.co, qui va être une réponse à tous les problèmes des réseaux sociaux, justement à se connecter avec les vrais, plutôt que se connecter avec le tout.
Ça, c'est beau, ça. Se connecter avec les vrais plutôt que se connecter avec le tout. J'adore ça. Tu as posé une question quand tu étais au tout début, quand on s'est rencontrés ce matin, voilà, à distance. Je t'ai demandé, tiens, c'est quoi la question que tu aimerais poser à nos participants? Tu leur as demandé, quel est, selon vous, le plus gros mythe à casser concernant la Silicon Valley? Et j'ai déjà des réponses à te donner. Tu vas voir, je voudrais te faire réagir là-dessus. Et c'est quatre lettres qui nous disent, il n'y a que des garages dans la Silicon Valley. Voilà, ça, c'est un gros mythe, selon lui. Charles nous dit Silicon Valley, ce n'est que de l'informatique. Silicon Valley, c'est le cœur de toute la R&D des États-Unis. Qu'est-ce que tu penses de ces deux façons de voir, tiens?
Alors, ce n'est plus que de l'informatique. C'est-à-dire que ça a commencé avec l'informatique et les semi-conducteurs et toute la bureautique et tout le hardware qui va avec. Aujourd'hui, par exemple, San Francisco, c'est un gros centre biotech. Donc, il y a beaucoup de sujets médicaux. Donc, même avec le digital twin, dont on va peut-être parler. Donc, oui, il n'y a plus que du. C'est vrai qu'on voit San Francisco et la Silicon Valley comme le temple du SaaS et des consumer apps, qu'on a toujours connu. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que l'app mainstream de dans 10 ans, elle n'est pas encore construite, elle est en train d'être construite maintenant. Si on regarde les cycles, c'est à peu près ça. Si on se met 10 ans en arrière en 2012, Instagram n'a même pas 2 ans. TikTok n'existe pas, et Musical.ly non plus. Snapchat va se lancer. Donc c'est intéressant aussi de mettre ça en perspective. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de, avec l'immigration Covid et puis la fiscalité quand même qui est pas du tout avantageuse ici, loin de là. Le coût d'un garage, il est très cher. Il y en a beaucoup des garages, je confirme, mais il coûte très très cher. C'est de dire qu'en fait, il y a beaucoup plus d'opportunisme, il y a moins de sujets, on va dire, agrégeants, en tout cas des nouveaux sujets agrégeants. Donc on reste quand même sur des sujets biotech, sur des sujets ça, sur des sujets consumer, aussi beaucoup de sujets enterprise, évidemment, parce que c'est là où se trouve l'argent. Les consumers, c'est bien, mais on peut pas faire que de la pub non plus.
On peut faire que de la pub, tiens. Allez, dernière question, parce que cet épisode du podcast touche malheureusement à sa fin. C'est la question de Zuber. Il te demande, il voudrait savoir si l'accessibilité numérique, est-ce que c'est un sujet que la Silicon Valley traite?
C'est une très très bonne question. Et alors, j'ai pas une réponse malheureusement précise et circonstanciée, mais je sais que le traitement de l'accès au digital, il est très haut dans la liste des choses qu'on met au même titre de l'inclusion et de la diversité. Ça a été plutôt le sujet de la diversité ces dernières années. C'est vrai que le sujet du handicap aujourd'hui revient beaucoup, l'inclusion avec le handicap. Mais les États-Unis sont assez précurseurs parce que dans leur manière d'approcher l'emploi, ils s'assurent, il y a quand même des cases, ils te demandent si tu es un vétéran de l'armée. C'est-à-dire qu'il y a quand même une vraie conscience de l'inclusion. Du point de vue personnel, moi, ce que je vois, par exemple, quand j'ouvre un ordinateur pour la première fois, enfin, que je le configure, ou un téléphone, sur les téléphones américains, j'ai beaucoup de prompts sur les pour justement est-ce que vous êtes disabled. Donc il y a des parcours à défaut d'avoir, on va dire de manière très visible et communiqué, il y a quand même des parcours qui sont faits. Et pour donner l'équivalent, en fait, ce qui se passe, il y a des je vais peut-être conclure là-dessus, donner un peu tout le contraste des États-Unis. C'est que, surtout dans la Silicon Valley, il y a eu une période, il y a 2 ans, avant le Covid, où en fait, il y avait des avocats spécialisés qui cherchaient tous les commerces qui étaient en défaut sur les rampes d'accès. Donc, pas seulement sur les rampes d'accès, mais aussi jusqu'à la pression que tu dois exercer sur la poignée des portes pour les pousser ou pour les tirer quand tu veux rentrer dans un magasin. Et que, sous couvert, ils le font pas pour reverser l'argent aux handicapés, malheureusement. Ils ont trouvé une poule aux œufs d'or. Mais ce que je veux dire, c'est que l'accès au handicap, il est bien plus développé et bien plus, on va dire, intégré dans les réflexions quotidiennes, que ce soit sur des constructions ou sur des propositions de services.
Bon, donc l'accessibilité, c'est intégré, c'est by design, c'est pas mal ça. Merci beaucoup Guillaume d'être passé ce matin. Merci à toi.
Je t'en prie, PPC.
Un grand bonheur. Puis d'ailleurs, on va te donner rendez-vous, mais ça, je vais le dire à celles et ceux qui sont en direct avec nous. On va vous donner date pour un nouvel épisode. Merci à vous tous d'avoir écouté. Merci à ceux qui ont participé. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode de ce podcast, Le Digital pour tous. D'ici là, porte-toi bien et surtout, fais-toi plaisir. Ciao.